Je vous propose de lire un chapitre que peut-être nous pourrions mettre au rang des chapitres les plus connus de la Bible. Je vous propose de lire le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Corinthiens chapitre 13. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un vase en bronze qui résonne, une cymbale retentissante. Si j'ai le don de prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens, si je donne mon corps pour pouvoir m'en vanter, mais que je n'ai pas l'amour, je n'en tire aucun profit. L'amour patiente. L'amour, il fait preuve de bonté. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas de sa propre importance. Il ne manque pas aux convenances. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne s'effondre jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. En effet, nous connaissons de façon partielle, nous prophétisons de façon partielle. Mais quand la complétude viendra, le partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui est de l'enfant. Actuellement, nous voyons par l'intermédiaire d'un miroir, de façon peu claire, mais alors face à face. Actuellement, je connais de façon partielle. Mais alors je connaîtrai complètement comme j'ai été complètement connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Il y a quelque temps que nous réfléchissons sur ce sujet de l'amour, sous différentes facettes, et c'est vrai que parmi les chapitres qui sont les plus immédiatement présent à notre esprit quand on parle de ce sujet de l'amour, c'est assurément ce chapitre de 1 Corinthiens 13. C'est un chapitre d'ailleurs que on lit volontiers, par exemple dans une cérémonie de mariage, voire même parfois lors d'obsèques. Donc c'est un chapitre qu'on prend souvent comme cela, un peu en dehors, sauf que je me demande vraiment si c'est tout à fait légitime, parce que quand vous regardez le texte de 1 Corinthiens, prenez les derniers versets du chapitre qui précède, le chapitre 12. « Tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez au don meilleur, et je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Je passe directement au chapitre 14, verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. » En effet, celui qui parle en langue, etc. Quand on lit ainsi la fin du chapitre 12 et le chapitre 14 en oubliant le chapitre 13, eh bien, on voit que ça tient tout à fait debout. Donc, ce chapitre 13 est-il une parenthèse que Paul introduit ? Oui, dans un sens, puisque le sujet qu'il traite, dans cette partie de la première épître aux Corinthiens, où il répond aux questions que les Corinthiens lui avaient posées, pour ce qui concerne, etc., etc., ce que l'on voit au début du chapitre 7, au début du chapitre 8, au début du chapitre 12. Donc là, Paul, dans ses chapitres 12 à 14, s'intéresse au sujet des manifestations spirituelles au sens large. Chapitre 12 à 14. Mais au cœur de ce développement qu'il fait, il s'intéresse d'abord et avant tout à ce sujet de l'amour. Pourquoi ? Parce que si on regarde juste les aspects spirituels, les manifestations spirituelles, mais qu'on ne relie pas ça à l'amour, on se trompe complètement. Et donc, l'amour, comme nous l'avons dit plusieurs fois, c'est la marque du chrétien. L'amour, c'est ce qui devrait caractériser l'Église de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, tu nous as cité quelques expressions, Ludovic, de ce chapitre 13. Et c'est normal que ce soit un chapitre qui soit au cœur du chrétien et qui soit si important, parce que c'est un chapitre qui nous touche, parce qu'il nous montre ce que nous devrions être. Mais néanmoins, ce chapitre se comprend, me semble-t-il, de façon profonde, que si on l'insère dans le contexte dans lequel il nous a été donné. Et comme je le disais, si on prend la fin du chapitre 12, le début du chapitre 14, ça colle. Et donc, on est dans ce contexte des manifestations spirituelles. Et le sujet de Paul, c'est de dire attention, attention, attention. Les manifestations spirituelles ne peuvent pas être détachées de l'amour. Et c'est dans ce sens-là que Paul va développer son propos en trois parties. Et ce chapitre 13 se divise assez facilement en trois parties. Dans les trois premiers versets, nous avons la nécessité de l'amour. Si, 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 et que je n'ai pas l'amour, je n'aime pas grand-chose. Ensuite, nous allons avoir cette énumération des versets 4 à 7, avec 14 caractéristiques de l'amour. Sans doute pas innocent si Paul en cite 14, 2 fois 7. Et puis, dans les versets 8 à 13, nous allons avoir cette permanence de l'amour par rapport à l'aspect transition et temporaire des dons spirituels. Et donc, ce que j'aimerais juste faire, c'est essayer de voir comment, en fait, nous pouvons, au travers de ce chapitre, percevoir que ce qui pourrait paraître quelque chose de très spirituel, s'il n'y a pas l'énergie, le feu de l'amour en dessous, le combustible, eh bien, finalement, ça fait pchit et ce n'est pas grand-chose. Alors, c'est vrai que quand on prend ce chapitre sur l'amour, le danger, c'est de le sortir de son contexte, mais aussi le danger, ce serait peut-être de le concentrer uniquement sur comment on montre l'amour quand on exerce un don spirituel. Alors que ce chapitre, à juste titre, est susceptible, comme beaucoup de textes de la parole de Dieu, d'une application plus large. Mais je pense qu'il vaut la peine néanmoins de le recentrer quand même par rapport à son contexte pour avoir une vision qui soit peut-être plus structurée des choses et qui ne se limite pas à une incantation un peu éthérée, un peu mièvre, l'amour est patient, l'amour ne s'irrite pas, etc. Un peu en ronron que l'on connaît, qui nous est familier, mais qui finalement ne perçoit pas, me semble-t-il, la réalité de ce qu'est l'amour. Et comme nous le verrons dans la partie centrale, de ces 14 caractéristiques qui se montrent par des actions. Alors tout d'abord, dans les premiers versets que nous avons ici, dans les versets 1 à 3, Paul va prendre trois catégories de manifestations spirituelles et va montrer que s'il n'y a pas l'amour, eh bien, ça ne marche pas. Donc les trois versets sont construits exactement de la même manière, vous aurez remarqué. Une hypothèse qui est renforcée par une hyperbole. Paul va pousser le bouchon exprès très très loin. Ensuite, un contraste avec l'amour. Et troisièmement, une appréciation sur la personne. Premièrement, donc, cette hyperbole. Et il faut percevoir la façon dont Paul tourne les choses. Et bien souvent, je trouve que nous trompons un petit peu dans l'interprétation de la parole, parce que peut-être nous sommes attachés à une lecture littérale de la parole qui a ses vertus, mais nous ne percevons pas qu'en fait Paul est plein d'humour, comme il l'était à la fin du chapitre 12, deux ou trois versets auparavant, quand il dit « Est-ce que tous sont apôtres ?» Ah, mais bien sûr que non. « Est-ce que tous parlent en langue ?» Eh bien sûr que non. Et là aussi, si je parle les langues des hommes et des anges, alors il y en a qui ont écrit des bouquins entiers pour savoir qu'est-ce que c'était que la langue des anges. Mais là, Paul, c'est, il exagère. Bon, allez, si je parlais les langues de tous les hommes, et puis, allez, on rajoute les anges. C'est n'importe. Les anges, quelle langue, d'ailleurs, utilise-t-il quand il parle dans la parole de Dieu? Ben, quand il parle à un hébreu, il s'adresse à lui en hébreu. Quand il parle à un grec, il s'adresse à lui en grec. Regardez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ils ne sont pas là dans un blablabla, charabia quelconque. Donc, cette exagération, c'est justement pour montrer que Paul veut montrer que l'exercice d'un don, même s'il était poussé à son paroxysme, ne signifie rien quant à la validité de ce qu'il apporte s'il n'y a pas l'amour. Et là, par rapport à trois catégories, et donc il va donner six exemples, mais par rapport à trois catégories, puisqu'il va parler des langues des hommes et des anges, premier verset, dans le verset 2, il va donner trois exemples, le don de prophétie, tous les mystères et la connaissance et toute la foi, et dans la partie 3, distribuer tous mes biens si je donne mon corps pour pouvoir m'en vanter. Et ces trois catégories de manifestations spirituelles auxquelles nous pouvons être sensibles. Le premier, parler toutes les langues des hommes et des anges. On sait à quel point les Corinthiens étaient attachés au parler en langue, qu'ils voyaient comme un moyen de communiquer avec la divinité. Il faut bien voir que Paul écrit à des Corinthiens qui sont à quelques dizaines de kilomètres, à vol d'oiseau du moins, parce qu'après il faut faire le tour du Golfe, mais de Delphes, où il y avait cette pitié qui parlait des paroles inspirées, et il y avait d'autres endroits en Grèce d'ailleurs, où d'autres cultes étaient sur le même schéma, où il y avait une prêtresse qui était là pour communiquer la parole du divin de façon parfois un petit peu ésotérique, etc. Et donc les Corinthiens étaient subjugués par ce type de manifestation spirituelle qui formait leur contexte culturel. Et donc, quand Paul évoque dans ce premier verset cette premier type de manifestation spirituelle, ça peut nous faire penser à des personnes qui disent qu'ils ont une relation spéciale avec Dieu. Des personnes peut-être qui sont tentées par une approche un peu mystique de la foi chrétienne et qui peuvent peut-être nous éblouir en disant que ben voilà, ils sont immergés par le divin et Dieu, ils sont en communion avec Dieu et ils ont une relation directe avec Dieu tout à fait spéciale. Mais Paul dit attention, vous pouvez avoir cette prétention, mais s'il n'y a pas l'amour là-dedans, eh bien, c'est comme un vase en bronze qui résonne, une cymbale retentissante. Vous savez, ces cymbales retentissantes, elles étaient placées dans les amphithéâtres et dans les théâtres grecs pour faire résonner la voix des acteurs et les musiques que l'on y donnait. Et donc, c'était purement du son. Il n'y avait pas de substance. Et donc on peut dire beaucoup de choses par rapport à la relation qu'on peut vouloir entretenir avec Dieu, mais le test, c'est est-ce que cette personne qui prétend être en relation avec Dieu, comment concrètement montre-t-elle son amour? Parce que si elle se contente de prétendre à cette relation spéciale, eh bien, et qu'il n'y a pas l'amour, eh bien, je ne suis qu'un vase en bronze qui résonne une cymbale retentissante. C'est du creux. C'est du pipeau, on dirait aujourd'hui. Deuxième catégorie de manifestation spirituelle. Alors là, on n'est pas sous l'angle un peu mystique, on est là sous l'angle peut-être un peu plus intellectuel. Tout le don de prophétie, tous les mystères et toute la connaissance. Encore, on voit Paul qui se lâche. Hein, et toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Peut-être allusion à ce verset que Jésus donnait dans l'Évangile. Et donc, une connaissance et une ampleur dans l'action spirituelle qui est extraordinaire. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et donc, ça peut nous faire penser à des personnes qui ont peut-être une prétention à connaître beaucoup de choses de la parole de Dieu, qui sont peut-être très affirmatifs sur la doctrine qu'ils semblent maîtriser à la perfection. Mais si derrière il n'y a pas ce ressort de l'amour qui se ressent, eh bien qu'est-ce que dit Paul? Il est peut-être encore plus fort quand il dit « je ne suis rien ». Et il avait déjà dit quelque chose d'approchant quand au chapitre 8 de cette même lettre, et au début, il dit « en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles », sujet qui faisait débat à Corinthe, « nous savons que nous avons tous la connaissance ». Peut-être cite-t-il le propos des Corinthiens, c'est comme ça que je le comprends. Et Paul répond, ah, attention, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Paul met donc l'accent non pas sur ce que nous pouvons connaître, mais sur le fait que nous sommes connus de Dieu. Et Dieu connaît effectivement dans quelle mesure, eh bien, je suis là pour écraser les autres par ma connaissance, comme je peux les écraser, premier verset, par ma relation spéciale, ma prétendue relation spéciale avec Dieu. Mais si je les écrase par ma connaissance et ou par l'ampleur de mon action spirituelle, mais que je n'ai pas l'amour, eh bien, je ne suis rien. C'est encore plus sévère, me semble-t-il. Troisième catégorie, ça c'est une autre façon de montrer sa spiritualité. Certains sont peut-être plus tentés par le mysticisme, d'autres sont plus tentés par une approche plus intellectuelle, et d'autres peuvent dire, ah ben non, en fait, la foi chrétienne, elle se montre d'abord et avant tout en actes. Moi j'ai lu 1 Jean 3, versets 17 et 18, « Enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Donc je vais donner, je vais faire beaucoup de choses, etc. » Sauf que Paul dit, attention, on peut aussi vouloir montrer sa spiritualité par beaucoup d'actions concrètes, mais quel en est le ressort profond? Est-ce que je fais ça, distribuer tous mes biens, donner mon corps pour pouvoir m'en vanter? C'est la traduction que je privilégie personnellement par rapport à une petite variante textuelle qui existe ici. Mais que je n'ai pas l'amour, je n'en tire aucun profit. Aucun profit. Et donc, par rapport à cette troisième façon d'envisager les manifestations spirituelles, donc plus, je dirais, l'action concrète ou l'action sociale ou l'entraide concrète, eh bien, je peux faire ça, finalement, pour pouvoir m'en vanter. Mais Paul dit, attention, vous n'en tirerez aucun profit. Et c'est donc dans ce contexte-là, de ces manifestations spirituelles qui intéressaient tant les Corinthiens, au sujet desquels ils avaient posé une question par laquelle Paul commence ce développement du chapitre 12 à 14, c'est donc sous ces trois angles de trois types, je dirais, de manifestations spirituelles que Paul vient porter le fer en disant, est-ce que, par rapport à ces trois types-là, est-ce que vraiment vous montrez de l'amour? Et alors, moi, je vais vous dire, dit Paul, et c'est comme ça qu'il enchaîne, comment on peut montrer de l'amour? Et d'où c'est 14 caractéristiques des versets 4 à 7 qui forment, comme je disais, un refrain que nous connaissons peut-être bien, mais aussi qui n'est pas toujours très bien traduit. Pourquoi? Parce que l'amour, pour commencer, l'amour est patient. Non, ce sont des verbes dans l'original. Et c'est pour cela que j'ai dit l'amour patiente, l'amour fait preuve de bonté. Et nous avons 14 verbes. Et donc, ce que Paul veut mettre en exergue, me semble-t-il, ici, c'est que l'amour agit. L'amour se montre d'abord en action. Mais en action, pas simplement pour démontrer que moi, ma spiritualité, elle est la meilleure de toutes, comme nous le voyons dans les trois premiers versets, mais de façon très concrète dans les relations. Et ça vaut la peine de décrypter, me semble-t-il, un petit peu, quelques facettes de ces 14 verbes pour essayer d'en retirer quelque chose. Mais tout d'abord, j'aimerais faire deux remarques. La première remarque, c'est que vous remarquerez que dans les trois premiers versets, Paul dit, et si j'avais tous les dons, toute la foi, etc. Il se place lui-même. C'est la première personne du singulier. Si je. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul est conscient qu'il peut tomber dans ses travers. Et quand je lis ce chapitre, il faut que je me dise, mais Joël, attention, tu peux être con. Tu peux tomber dans ce travers de penser que tu as une relation spéciale avec Dieu. Tu peux tomber dans le travers de penser que ta connaissance est supérieure à celle des autres. Tu peux tomber dans le travers de penser que tes bonnes œuvres, finalement, elles sont quand même vraiment super. Tandis que dans les versets 4 à 7, Paul dit pas « par amour, je patiente, par amour, je fais preuve de bonté, par amour, je ne jalouse pas. » Il va, en quelque sorte, personnaliser l'amour, puisqu'il va dire l'amour patiente, l'amour fait preuve de bonté. Mais l'amour, on est habitué à ce chapitre, donc ça nous choque peut-être plus trop, mais c'est bizarre de dire les choses comme ça. C'est bizarre. Normalement, on devrait dire par l'amour ou avec amour, je patiente. C'est ça, je veux dire. Mais Paul personnifie l'amour parce que finalement, quand quelqu'un montre ses différentes facettes, c'est comme s'il incarnait l'amour de Dieu, puisque ces différentes facettes nous montrent l'amour de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dira l'apôtre Jean, et on voit à quel point ce chapitre 13 de 1 Corinthiens a des connexions avec ce que Jean nous présente dans ses lettres. Personne n'a vu Dieu, mais si nous vivons ces 14 caractéristiques, eh bien, nous rendons concret l'amour de Dieu autour de nous. L'amour s'incarne dans un sens, dans une personne qui en démontre les facettes. Et la deuxième caractéristique que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais insister, c'est que dans ces 14 actions de l'amour, comme ça que j'aime bien qualifier ces quatre versets, dans ces 14 actions de l'amour, il y en a deux positives. L'amour patiente fait preuve de bonté. Ensuite, vous en avez 8 négatives, d'accord ? Toutes exprimées par des verbes au négatif, ne, avec la dernière qui est à moitié négative, à moitié positive, hein, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Et ensuite, 4 positives. Donc vous faites le compte, 2 plus 4, ça fait 6, 6 contre 8. Ah oui ? Donc ça veut dire que, pourquoi Paul... nous donne-t-il finalement plus de caractéristiques négatives de ce qu'on ne doit pas faire si on veut montrer l'amour que plutôt de ce qu'on doit faire. Enfin, spontanément, moi j'aurais plutôt mis plus de positifs, à tout le moins, si on en donnait 14, allez, 8 et 6 peut-être, mais pas 6 et 8. Parce qu'il faut bien voir que par nature, nous ne sommes des enfants de colère et nous avons un cœur qui ne montre pas l'amour de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que les non-chrétiens ne peuvent pas faire preuve de patience, d'humilité, etc., supporter beaucoup de choses, être peu irritable, etc. Mais notre pente naturelle, c'est d'aller à l'encontre de cela. Vous savez, toujours dans cette même première épître de Jean, il est parlé du diable, et le diable qui hait, qui déteste, qui a de la haine. Pourquoi Caïn tua-t-il son frère Abel ? Parce qu'il était du méchant, parce qu'il avait haï son frère. Il était du méchant. Et le méchant, comme c'est la caractéristique du diable, c'est l'absence d'amour. Pire que cela, c'est la haine. Et donc cette haine, elle se montre par des choses négatives. Et donc, il faut que nous prenions conscience profondément, me semble-t-il, que l'amour nous est étranger. L'amour, en quelque sorte, nous est étranger. Le fond de mon cœur est mauvais. Et c'est pour cela que Paul est obligé d'avoir 8 caractéristiques négatives et 6 positives. Et alors, si l'amour nous est étranger, comment pouvons-nous le montrer par ces 14 actions de l'amour qui nous sont proposées ici dans ce texte ? Eh bien, nous pouvons les voir uniquement parce que nous avons ce verset de Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car Dieu démontre son amour à lui envers nous, à ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, pour vraiment comprendre l'amour, eh bien, et nous avons d'abord à voir l'amour en Dieu, l'amour en Jésus-Christ, et après nous pourrons en déduire des choses pour nous. Ça me prendrait trop de temps de prendre ces 14 caractéristiques pour essayer de voir comment l'amour, ce qui nous est dit ici de l'amour se montre en Dieu, s'est montré en Jésus-Christ pendant sa vie sur la terre, et de ce fait peut se montrer dans nos vies. Mais ce serait, me semble-t-il, la meilleure façon de prendre ce chapitre. Et c'est comme cela que je vous invite à le méditer si vous en avez l'occasion. Par exemple, prenons le premier, l'amour patiente. Eh bien, nous pouvons penser à la patience de Dieu. Je vais juste donner un exemple. Au début de la Bible, dans la Genèse, nous avons vu ça. Quand Dieu fait cette première alliance avec Abraham, au chapitre 15 de la Genèse, et Dieu promet à Abraham de donner le pays à sa descendance, il lui dit, mais ça sera dans 400 ans. Pourquoi ? Parce que la, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Donc Dieu annonce à Abraham qu'il va patienter encore 400 ans vis-à-vis de ces peuples qui avaient développé une culture qui était absolument horrible, en particulier de sacrifice d'enfants, etc. 400 ans. L'amour patiente. C'est long, 400 ans. Voilà. Et donc, du coup, on se dit, ah, oui, Dieu a patienté 400 ans. Mais je donne cet exemple, on en aurait plein dans l'Ancien Testament. Hein?
Oui, et dans le Nouveau aussi.
400 ans. Ouais, donc Dieu a patienté très, très, très longtemps. Ben voilà, donc du coup, moi, je peux peut-être patienter un petit peu. Quand, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Et puis après, je peux penser aussi à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a patienté. Il y a une expression que nous trouvons dans la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 5. Alors, ça vaut la peine peut-être de la lire. Deux Thessaloniciens 3, 5, qui est intéressante parce qu'elle relie la patience à Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu, c'est le sujet, et vers la patience de Christ. C'est presque un indiadis, hein, deux points. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu qui se montrera par la patience de Christ. Ah oui ? Patience de Christ ? Alors, ça, c'est la patience que Christ montre. Et donc, quoi Christ il était patient ? Eh bien, on peut le voir tout au cours, par exemple, de l'Évangile, quand il est dit « Mon heure n'est pas encore venue, il n'était pas encore le temps. » Et puis, il attend une semaine avant de monter à la fête, dans Jean chapitre 7. Et puis il attend 4 jours en Jean chapitre 11 pour aller voir Marie et Marthe qui pleurent leur frère Lazare. Et puis aujourd'hui, on peut penser aussi dans ce sens-là que Jésus patiente en attendant de se présenter son épouse, sainte et pure et irréprochable lors des noces de l'agneau. La patience de Christ. Alors, je commence par le premier, on ne va pas prendre les 13 qui suivent. Mais vous voyez comment, en réfléchissant à ces caractéristiques-là, à ces actions de l'amour, on peut creuser un petit peu, vous voyez, pour essayer de voir comment notre Dieu l'a démontré dans l'histoire de l'humanité et comment Jésus-Christ, en particulier dans sa vie sur la terre et dans ce qui nous en est relaté des évangiles, a pu montrer de façon très concrète tel ou tel aspect de l'amour. Ce que je vais juste faire, c'est donner peut-être quelques éléments sur ces différentes expressions pour voir comment, aussi en creusant le sens même du verbe, on peut tourner autour pour que ce ne soit pas simplement quelque chose d'un peu théorique, mais y mettre un peu de chair derrière. Par exemple, patiente, c'est quelqu'un qui sait attendre, qui supporte les autres sans perdre courage, qui renonce à la colère. Donc, il est souvent question de ce verbe ou du nom qui est relié par rapport à des attitudes qui nous énervent, des attitudes négatives des autres. Donc patiente, c'est par rapport à des attitudes négatives des autres. Par contre, use de bonté, le deuxième terme, là c'est plutôt c'est quelqu'un qui va rendre service, qui agit de façon bienveillante, qui se plaît dans le bien, qui va vers ce qui est constructif, qui se réjouit de l'aspect positif chez les autres. Voilà. Il use de bonté. Quelqu'un qui n'envie pas. Ah oui, qui n'envie pas, ça c'est vrai que la jalousie, ça peut absolument être débordant. N'envie pas, il ne cherche pas à posséder, il ne veut pas accaparer, il n'est pas jaloux. Il ne cherche pas à vouloir posséder ce qu'a l'autre ou que l'autre n'ait pas ce qu'il lui-même n'a pas. Parce que ça, c'est une autre façon aussi de montrer sa jalousie. Hein. C'est syndical d'ailleurs, parfois. Eh bien, je ne voudrais pas que tu aies ce que moi je n'ai pas. Ça va peut-être même un cran plus loin que de vouloir posséder ce que l'autre a. Quelqu'un qui ne se vante pas. Ne se vante pas, c'est, il n'agit pas aussi avec présomption. C'est-à-dire, ça c'est aussi quelque chose auquel. Qui nous arrive et ça écrase les autres. Oh, mais moi je vais bien y arriver de toute façon. De toute façon, pas de problème. Et puis il y a quelqu'un à côté qui dit oh là là, mais moi ça me poserait un problème. Et on écrase l'autre. Et est-ce qu'on montre de l'amour dans ces cas-là ? Ne s'enfle pas d'orgueil. pourrait traduire aussi ne s'étale pas, ne se rengorge pas, n'agit pas avec inconvenance. Ah, ça c'est aussi un caractère important, parce que parfois on se dit dans la sphère chrétienne, et encore une fois, ce chapitre 13, ça fait la suite avec le chapitre 12 où il est question du corps, avec le chapitre 14 où il est question des interactions dans l'Église, donc on est dans la sphère communautaire. Eh bien, comment par exemple on peut montrer de l'inconvenance? Eh bien, en se disant, de toute façon on est frères et sœurs, donc on peut bien se dire les choses franchement. Et c'est vrai que parfois on est un peu surpris qu'on soit aussi cash envers ses frères et sœurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire la vérité. Parce qu'une autre façon de ne pas montrer l'amour, c'est de se dire « Ah, ben je ne vais pas faire de peine. Je ne vais pas faire de peine aux autres. » Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne montre pas aussi cet amour qui, comme nous le dit Lévitique chapitre 19, eh bien, ne s'empêche pas de dire à l'autre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, ce faisant, il y a aussi la manière de le faire. Et n'agit pas avec inconvenance, derrière, me semble-t-il, il prend des écarts, il évite de blesser, il use de tact, de droiture, il prend en compte le proverbe qui nous dit qu'une parole dite en son temps, combien elle est bonne, et que ce n'est pas nécessairement toujours le temps idéal pour dire les choses. Voilà, je ne vais pas forcément tous les dévoiler, mais ne cherche pas son propre intérêt là aussi. Qu'est-ce qui peut être plus opposé que l'amour qui est tourné vers les autres que chercher d'abord son propre intérêt? Ça veut dire penser d'abord à lui. Et ça, c'est aussi un travers dans lequel nous pouvons tomber. De penser d'abord à soi. Ne s'irrite pas, on pourrait traduire aussi, ne se montre pas susceptible. Ou ne répond pas quand on le pique, ou ne se laisse pas exaspérer. Il y a des gens, parfois, on le voit, on se dit, mais oh là là, celui-là, on a beau lui dire ça, il reste zen, il n'y a pas au quart de tour. Pensez, est-ce que nous, si, quand on réagit au quart de tour, est-ce que ce n'est pas justement que parfois nous irritons. Une autre façon de faire, c'est peut-être pas réagir au quart de tour, c'est garder un chien et sa chienne. Ou comme Dodé l'a dépeint dans la mule du pape, je vous invite à relire cette lettre de Montmoulin qui est d'une saveur extraordinaire, qui avait la mule du pape qui avait gardé pendant 7 ans sa vengeance. Eh bien, il ne tient pas compte du mal. Celui qui tient compte du mal, c'est qu'il a son petit carnet, et puis... Passif numéro 1 pour lui, celui-là, je te revaudrai bien ça à l'occasion. Eh bien, ça, typiquement, c'est une attitude que Paul stigmatise ici au travers de cette expression. Je voudrais dire un mot sur l'anaphore du verset 7. Il couvre tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Là aussi, il convient, me semble-t-il, de prendre le texte comme il est. Est-ce que Paul... croit tout, fait confiance ou dans le sens de croit tout. Mais dans cette même lettre, ce qui est amusant, c'est que Paul a une expression, il dit, il m'a été dit par certains de chez Chloé, et je le crois en partie. Ah bon? Alors Paul, il y a des choses qu'il croit en partie, puis après il va nous demander de croire tout. Excuse-moi l'ami, là il faudrait que tu sois un peu cohérent. Donc il croit tout, est-ce que ça veut dire que je vais être là? Ah ben, je gobe tout comme un idiot, absolument pas. C'est pas d'ailleurs tout à fait le panorama de la personnalité de Paul qui se dégage de ses lettres, hein, ou du livre des Actes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en toutes circonstances, je vais être disposé au positif. C'est, me semble-t-il, ce que nous trouvons derrière ces quatre expressions, et en particulier de ce fameux tout. Je vais être disposé au positif. Je vais plutôt regarder, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, d'avoir un a priori positif. Alors après, malheureusement, dans un monde déchu, avec des gens pécheurs comme je le suis, eh bien cet a priori positif, il doit être tempéré par le réalisme de ce que sont les gens, les circonstances, etc. Bien entendu. Mais a priori, si tu me dis quelque chose, Ludovic, je vais te croire, je ne vais pas dire « il me dit ça, mais... est-ce qu'il n'y a pas derrière un truc ?» Non, je reçois cela a priori de façon positive. J'attends a priori le meilleur d'autrui. a priori, je couvre les choses, supporter tout. Il y a cette idée de couvrir, de passer par-dessus, d'endurer, de pardonner, de couverture. Voilà. A priori, eh bien, je passe là-dessus. Et endure tout. A priori, je supporte. Ça ne veut pas dire qu'on va supporter des comportements qui sont manifestement pécheurs. Et ça, ça doit être traité. Mais a priori, je ne vais pas me placer dans cette optique-là. Voilà. Et ça, cette tournure d'esprit, eh bien, moi je me dis, ce n'est pas facile de l'avoir. Surtout quand on est français, je pense, on a plutôt tendance à voir... Il y a des caractères nationaux, hein, quand même. L'américain est là, wonderful, it's marvelous, etc. Là où le français va se dire, ouais, en fait, au fond, hein. Voilà. Et donc, tenons compte aussi de cela pour que, entre français, nous nous encouragions dans ces quatre expressions, dans toutes les circonstances, de commencer par voir le meilleur, le positif à faire, a priori confiance, par exemple, espère tout, a priori, est optimiste pour l'avenir, plutôt que de se dire, ouais, de toute façon, ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas cette expression parfois ? De toute façon, ça ne va pas marcher. Mais si, allons-y. Et voyez combien c'est susceptible d'applications très variées, au-delà du cercle de l'Église, de l'exercice des manifestations spirituelles, qui est le contexte immédiat. Dans le travail, par exemple, si vous commencez à lancer un projet et vous avez toujours quelqu'un qui est là à dire de toute façon, ton truc, ça ne va pas marcher. Ben, let's try. Essayons, et puis on verra bien. Et voyez que c'est un autre état d'esprit que nous sommes appelés à cultiver. Dans la troisième et dernière partie qui couvre les versets 8 à 13, nous avons un contraste entre l'aspect éphémère des dons et l'aspect permanent de l'amour avec trois accents. Aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est pas complet. Et ça, c'est ce que nous avons dans les versets 8 à 10. Aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est pas la pleine maturité. C'est ce que nous avons dans le verset 11. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est pas parfaitement clair. C'est ce que nous avons dans le verset 12. Vous voyez, Paul, encore une fois, marque cette triade et nous retrouvons le contexte immédiat de l'exercice des manifestations spirituelles, et en particulier des dons, que nous avions déjà vu au début de notre chapitre. Nous le retrouvons ici avec Paul qui revient sur ce sujet du lien entre l'amour et les manifestations spirituelles. Et donc, que va-t-il nous dire là-dedans ? Il va nous dire que aujourd'hui, l'amour ne périt jamais ou ne s'effondre jamais. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont être abolies. Et donc, les prophéties, les langues et la connaissance. Alors, je vais faire une petite parenthèse. De la même manière qu'au début de notre chapitre, la langue des anges et des hommes, ça suscite beaucoup de débats. De la même manière, vous avez ce débat qui continue depuis fort longtemps entre ce qu'on appelle les cessationnistes et les continuationnistes. Les continuationnistes disent « Ah ben non, les prophéties, les langues, ça continue encore en 2024. » Et les cessationnistes vous diront « Ah non, ça c'était la première génération des apôtres et puis ça... » Et franchement, c'est un sujet où les débats ne sont pas toujours caractérisés par l'amour. N'est-ce pas ? Et on a des... de la virulence, de l'aigreur dans certains de ces débats où regardez les notes qui sont parfois, ou les commentaires qui sont faits sur un blog ou après que quelqu'un a donné un podcast dans un sens ou dans l'autre sur internet et vous verrez que franchement, c'est pas l'endroit où l'amour chrétien se montre toujours dans sa plus belle lumière. Voilà, disons les choses comme ça. Et donc ce qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps incomplet. Verset 9, partiel, partiel, partiel. Nous connaissons de façon partielle, nous prophétisons de façon partielle. Quand la complétude viendra, le partiel sera aboli. Donc aujourd'hui, ce que je perçois, c'est partiel. Et que je sois continuationniste ou cessationniste, je n'ai vu qu'une vue partielle des choses. D'accord ? Voilà. Parce que je n'ai pas toutes les expériences, parce que, voilà... Et donc, ça, sur ce sujet-là, mais c'est intéressant de le prendre comme exemple de débats qui peuvent être vécus avec assez d'acrimonie, eh bien, sur ces débats que nous pouvons avoir, soyons toujours conscients que nous n'avons qu'une vision partielle des choses. Et que l'un insistera sur cet aspect-là, l'autre sur cet autre aspect-là, et on va en venir à se disputer, Alors qu'en fait, si nous avions conscience que nous n'avons qu'une vue partielle des choses et que bien souvent la vue est complémentaire, eh bien nous arrêterions des débats un peu stériles et qui finalement créent du trouble et de la haine. Finalement, ça va peut-être jusque-là, hein, en tout cas de la crimonie et de la dissension au sein du corps de Christ. Et c'est valable sur plein de sujets. Typiquement, pour reprendre une illustration que Christophe Argaud nous avait donnée il y a quelques années, entre souveraineté de Dieu et responsabilité de l'homme, Christophe comparait ça à un cylindre. Quand on le regarde d'en haut, c'est un rond. Quand on le regarde comme ça, c'est un rectangle. Et est-ce que comment allier les deux ? Eh bien, nous, on est dans dimension 2. Et puis, quand la complétude viendra, on passera en dimension 3 et on comprendra comment ces éléments-là s'articulent. Et du coup, entre arminiens et calvinistes, eh bien, les débats vont d'un seul coup s'apaiser pour l'éternité. Et si on pouvait les apaiser déjà un petit peu aujourd'hui en ayant cette idée que les choses sont partielles, je pense que ce serait peut-être une bonne chose. Donc les choses sont partielles et il y a une autre chose qui est importante, ce n'est pas la pleine maturité. Donc ça, nous l'avons au verset 11. Et vous avez cette expression « enfant, 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 enfant », 5 fois vous avez « enfant » et « lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant ». Voilà. Donc là aussi, on peut survaloriser sa prétendue maturité. « Ah oui, mais toi, tu es un petit jeune, tu comprendras plus tard. » Ouais. Fais-moi confiance, moi qui je suis plus avancé. Pensons à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait, Philippiens chapitre 3. Moi-même, je pense pas l'avoir saisi. Mais par contre, je fais une chose, je cours avant pour le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Il ne pensait pas être arrivé à cette maturité. Et il était conscient qu'il avait encore des choses à apprendre. Il était conscient aussi qu'il avait reçu des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas objectif par rapport à certains éléments qui sont vrais. Mais soyons conscients que nous sommes encore tous des enfants. Peut-être que certains sont à la maternelle, d'autres au primaire, d'autres un peu au collège, mais on est tous des enfants. Et il y a ce manque de maturité qui nous caractérise encore et qui fait que dans notre approche les uns des autres et dans nos interactions, en particulier nos interactions spirituelles, ça doit nous rendre conscient que par amour, je n'ai pas à écraser l'autre par ma supposée maturité chrétienne. Et donc là, ou pour le dire différemment, l'argument d'autorité, en disant « Attends, toi tu es un petit jeune, écoute-moi, moi je suis le plus âgé », je l'ai entendu un certain nombre de fois, ce n'est pas un argument qui montre l'amour chrétien. Troisième trait, nous le voyons au verset 12, nous voyons par l'intermédiaire d'un miroir peu clair, et alors je connaîtrai de façon partielle. Actuellement, je connais de façon partielle, alors je connaîtrai complètement, comme j'ai été complètement connu. Donc aujourd'hui aussi, cette vision que nous avons, elle est non seulement incomplète, ça c'était le premier point, mais dans ce troisième point, cette compréhension que j'ai aujourd'hui, cette vision que j'ai aujourd'hui, en particulier par rapport à toute la sphère des manifestations spirituelles, elle est imparfaite parce qu'elle est toujours entachée du péché. Elle est toujours entachée de ma faiblesse. Elle est toujours entachée du fait que aujourd'hui, je ne peux pas prétendre à la complétude. Les miroirs de l'époque, je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs de visite au Louvre ou dans un musée archéologique, quand on dit ça c'est un miroir, on se disait ouais. D'abord, ils étaient parfois pas toujours plats, donc ils étaient un peu concaves. Et donc on se dit, on devait avoir un peu la tête au musée Grévin, vous savez, ou au jardin d'acclimatation quand vous passez dans les miroirs. Voilà. Donc ces miroirs concaves ou convexes, vous savez, parfois ils vous font prétendre voir plus gros que vous n'êtes, parfois plus petit que vous êtes. C'est intéressant par rapport à ces idées de miroir, hein, parce que c'est un petit peu cela. D'aucuns vont exagérer leur importance, d'autres vont au contraire se sous-estimer, mais c'est très difficile d'avoir cette vision claire de ce que l'on est. Et donc, la façon dont je vais exercer mon don sera forcément entachée par cette imperfection que j'ai. Je vais peut-être prendre trop de place ou pas assez, c'est à vous de me le dire, hein. Mais nous avons une perspective devant nous qui est cette complétude à laquelle nous allons arriver in fine. Et c'est pour cela que Paul termine dans ce verset 13 par cet encouragement, et c'est ainsi que je le prends. Je le prends comme un encouragement. Je le prends comme un encouragement dans le sens où, aujourd'hui, nous sommes appelés à aimer, avec ces 14 verbes d'amour que nous avons rapidement esquissés. Et comme je vous dis, je vous invite vraiment, je nous invite moi aussi à continuer à y réfléchir par rapport à ce que fait Dieu, par rapport à ce que fait Jésus, et pour que nous en nourrissions concrètement. Mais donc aujourd'hui, l'amour que nous montrerons, eh bien, il va être imparfait. Mais nous avons quelque chose qui va demeurer pour l'éternité, eh bien, c'est l'amour. Et là, nous serons introduits dans une sphère où ce qui est incomplet, ce qui est immature, ce qui est pas clair, eh bien, sera transformé en quelque chose de parfaitement mature, parfaitement complet et parfaitement clair. Et de ce fait, les 14 verbes que nous avons précédemment pourront trouver leur plein déploiement dans un monde où alors, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où nous serons revêtus de corps nouveaux et délivrés de la présence du péché, dans une condition où l'amour pourra avoir son développement plein et complet. Et je dis cela non pas pour simplement nous ouvrir une perspective heureuse, à quand sera-ce que ces temps heureux, où lui aura ta face, comblerons nos voeux. C'est juste pour nous dire que ce que nous avons à vivre de l'amour aujourd'hui, c'est un avant-goût de ce que nous aurons demain. Cet avant-goût, comment dire, vous savez, parfois, il y a une cuisinière qui prépare un bon plat, il n'est pas encore tout à fait cuit, mais elle prend juste une petite cuillère et puis elle goûte, c'est bon. Et encore quelques minutes de cuisson où il faut que je rajoute encore quelques ingrédients, mais ça sent bon. Ben voilà, c'est ça un petit peu, quand on goûte l'amour les uns vis-à-vis des autres, on attend ce jour où finalement les choses seront complètes, ou alors les saveurs seront totalement équilibrées dans une perfection éternelle. Mais dès aujourd'hui, ça vaut la peine. C'est la saveur du devant que nous avons à goûter quand nous montrons de la patience, quand nous ne nous irritons pas, quand nous agissons avec tact les uns vis-à-vis des autres, etc. C'est l'avant-goût d'une éternité où alors la foi dans un sens sera arrivée à son terme. Je sais qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, mais cette confiance que nous avons, eh bien, elle sera transformée en vue, et où l'espérance, elle sera atteinte, puisque nous espérons les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et alors nous y serons tout cela. Et donc, pour l'éternité. Et donc, ça nous encourage, et c'est bien dans ce sens-là, me semble-t-il, que Paul conclut ce texte magnifique. Maintenant, ces trois choses demeurent, maintenant, mais demain, la plus grande de ces choses restera éternellement, et c'est l'amour. Et donc, quelque part, quand nous mettons en œuvre une de ces 14 actions que nous avons rapidement passées et que nous sommes conscients des limites dans lesquelles nous l'exerçons, eh bien, c'est un petit peu la saveur du devant, la saveur de l'éternité que nous faisons percevoir sur cette terre, et cela en particulier dans la sphère chrétienne, et cela en particulier dans le cadre des manifestations spirituelles.